Alors, je ne sais pas s'il faut dire bonjour, bonsoir. C'est vrai que bon, c'est un peu plus clair quand même. Hein. C'est pas trop la nuit. Alors, moi, je fais fort. Là, ce matin, regardez, je viens avec un ordinateur. Je viens avec un script écrit sur une feuille de papier avec une clé USB. Pourquoi pensez-vous? Parce que je me dis, oulala, mais si un ordinateur, tout d'un coup, il tombait en panne, j'aurais éventuellement la partie écrite ou alors j'aurais d'abord la clé USB. Et puis, si vraiment ça ne va pas, j'ai la partie manuscrite sur les feuilles. Voilà, pourquoi je dis ça? Parce que ces temps, je devais réfléchir à un thème, à un message, et puis on se dit mais comment est-ce qu'on va faire, etc. On essaye de. Alors bien sûr, il y a des trucs hein, pour faire passer quelque chose, pour faire passer un message, et puis on prend beaucoup sur soi en quelque sorte. Et je crois que finalement on perd de vue l'essentiel, c'est-à-dire que tout d'un coup, nous sommes au service de Jésus-Christ. Et le but, c'est vraiment de se laisser influencer par lui. Et vous savez, il m'est arrivé une chose, cette nuit, très tôt ce matin, vers les 4h, 5h du matin, tout d'un coup, j'ai senti quelque chose de très fort. C'est-à-dire que vous voyez, donc, c'est pas toujours évident, on va dire, bon, je vais prêcher, je vais parler du Christ, je vais parler de l'abîme, je vais parler d'un sujet qu'on va aborder tout à l'heure. Mais finalement, des fois, on peut se poser la question, mais à quoi, bon, pourquoi, est-ce qu'on a vraiment besoin de cela? Et puis, on se laisse gagner par une forme de scepticisme, je dirais, par une forme d'incrédulité. Et là, quelque part, ça m'a fait beaucoup de bien, parce que dans cette nuit, tôt ce matin, quand je me suis réveillé, tout d'un coup, j'ai senti quelque chose, de très fort, avec aussi cette parole du Christ qui me disait, mais viens mon enfant, parce que mon fardeau et mon joug est léger à porter. Venez-vous tous à moi qui êtes chargés et fatigués, je vous soulagerai, je vous donnerai du repos. Alors je l'ai vraiment pris pour moi, je me suis dit, mais oui, quelque part c'est ça. On se met à la suite du Christ et puis on se décharge sur lui. Alors c'était un fardeau pour moi de préparer ça. Et tout d'un coup je réalise que ce fardeau, ça se transforme en quelque chose de plus simple, de plus agréable, parce qu'il y a le Christ qui est derrière. Et puis, c'est lui qui nous inspire, c'est lui qui m'inspire. Et puis, on le fait pour lui. C'est lui la tête, justement, de cette Église. Et puis, si on est réunis, c'est parce que nous croyons en Jésus-Christ, nous croyons en Jésus-Christ ressuscité. Et alors, aujourd'hui, ce que je voulais, c'était aborder un peu la notion de corps, temple de l'esprit, mais aussi la notion de corps du Christ, ce qui a été brièvement évoqué aussi par Jean tout à l'heure. Et donc, si on peut peut-être passer le menu un petit peu de cette présentation, je serai très avare en slides, il n'y en aura que deux. Il y a juste une présentation avec les principaux points que je vais traiter. Et puis, une fois n'est pas coutume, à la fin, il y aura une partie, on va tous être un peu actifs, on va se répartir en petits groupes pour réfléchir à un certain nombre de questions. D'accord? Voilà, donc, Église, corps du Christ. Alors, c'est un sujet qui me tenait à cœur. Alors, il y a deux volets. Il y a ce volet, justement, corps, temple de Saint-Esprit, et puis corps du Christ, extension de ce corps du Saint-Esprit, c'est-à-dire, plus généralement, l'Église. Chers amis, est-ce qu'on peut seulement se représenter ou imaginer le séisme, la révolution complète qu'a dû opérer l'apôtre des païens, Paul, quand il s'est vu confier le ministre d'aller annoncer l'Évangile aux païens? Oui, en Israël, Paul a connu l'administration romaine, mais il appartenait quand même à un mouvement fondamentaliste, celui de la secte des pharisiens, les purs qui se faisaient un point d'honneur à se séparer des impurs, des païens, des gens de mauvaise vie. Et voilà qu'il va être lancé dans ce monde hellénistique, dans ce monde grec et romain, avec ses idoles, avec ses philosophes, sa culture païenne, etc. Une des exhortations qui convient le mieux à Paul lui-même est celle où il déclare « Je me fais tout à tous afin d'en gagner le plus grand nombre ». Paul va devoir quitter sa citadelle, Paul va devoir quitter son palais, sa culture juive, pour se confronter à la culture romaine hellénistique. C'était franchement pas évident. Eh bien tout ça, mes frères et sœurs, cela s'appelle le mystère de l'incarnation. Paul va devoir prendre corps, il va devoir s'incarner dans la culture païenne de son temps, et Dieu sait s'il l'a bien fait. Notre foi est une foi dans l'incarnation, la parole s'est faite chair, Dieu est venu habiter dans un corps d'homme. Ça veut essentiellement dire que Dieu nous a rejoints pour nous parler. Le corps va devenir le véhicule pour passer le message. Dieu n'a que notre corps, n'a que nos bras pour faire passer ce message dont le monde a tellement besoin. Nous allons devenir, nous les chrétiens, le temple du Saint-Esprit. Et par extension, nous allons devenir le corps du Christ. Et c'est sur ces deux réalités essentielles et fondamentales que j'aimerais m'arrêter quelques instants. Alors, on va d'abord ouvrir notre Bible dans le Nouveau Testament, dans 1 Corinthiens 6, 19, 20. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même ? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Lors de l'inauguration de la cathédrale Notre-Dame, auquel nous avons pu assister l'année passée en France, à Paris, nous avons été nombreux à être impressionnés par la résurrection de ce monument emblématique de Paris, vieux de plusieurs siècles et magnifiquement restauré. Certes, c'est un merveilleux témoignage du passé chrétien de la France et de la civilisation occidentale, et pensez à tous ces corps de métier qui ont œuvré avec intelligence pour arriver à ce résultat de rénovation après seulement 5 ans de labeur, force le respect et l'admiration. Mais le verset que nous venons de lire nous appelle à dépasser cette croyance que la présence de Dieu se trouve dans un bâtiment fait de la main des hommes. Le christianisme introduit aussi cette révolution copernicienne. Nous représentons maintenant ce temple. Nous sommes le temple. Notre corps a été racheté à un grand prix. Et je ne peux pas m'empêcher de penser d'ailleurs que quand la phrase du Christ, avant sa mort et sa résurrection, quand il déclarait le voile du temple va se déchirer, ce temple se détruira et je le reconstruirai en 3 jours. Et donc là, on passe vraiment, il y a une transition. Le bâtiment où habituellement, donc, chez les Juifs, recevait cette présence dans le Saint des Saints, cette présence de Dieu, tout d'un coup, ben voilà, c'est le corps et c'est le Christ, premier-né d'entre les morts, qui va justement incarner cette réalité, cette nouvelle réalité, c'est-à-dire du Saint-Esprit et de la présence de Dieu dans un corps glorieux et ressuscité. Et donc, c'est après sa résurrection, avec la venue du Saint-Esprit, il va y avoir un déplacement, et c'est dans notre corps que va se loger ce Saint-Esprit et la présence de Dieu. Et nous ne nous appartenons plus vraiment, puisque cela devient ce temple, qui doit servir de témoignage pour le monde. Ainsi, ce corps n'est pas méprisable, contrairement à une philosophie désincarnée où il faudrait privilégier l'esprit au moyen de l'ascétisme, ou disons que les efforts réguliers sur le corps. N'est-ce pas ? C'est vrai que disons que beaucoup de courants philosophiques, finalement, tentaient de faire la séparation. Je pense aussi à Platon, à certains courants philosophiques, où on fait vraiment la séparation entre l'âme et le corps, entre l'esprit et le corps. Le corps est mauvais, il faut vraiment, quelque part, traiter durement son corps pour n'en garder que l'esprit. Eh bien là, on est loin de l'incarnation chrétienne. Encore une fois, c'est une réalité. Le christianisme, ça s'ancre dans une réalité, quelque part. C'est un Dieu qui descend de son ciel et qui s'incarne dans une personne et après dans l'ensemble des croyants qui vont former l'Église. Ce n'est pas juste l'âme qui a été rachetée à un grand prix, mais tout le corps. Et donc, notre corps ne nous appartient plus et l'on doit le respecter, en prendre soin et ne pas faire n'importe quoi avec. Paul sait de quoi il parle, car son siècle est fortement dominé et influencé, notamment par l'épicurisme, organisation de fêtes orgiaques, dionysiaques. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de ce genre de choses. Et d'ailleurs, dans Corinthiens 6, 18, Paul dit « Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. » Donc, il est de notre responsabilité de ne pas faire n'importe quoi avec son corps, de le respecter pour lui-même, mais aussi et surtout car il est le temple sacré de Dieu. Et on connaît le commandement « Tu aimeras ton Dieu comme toi-même ». Et vraiment, ça aide quand on pense que c'est ce corps que Dieu a choisi pour révéler sa présence au monde. Donc, « Tu aimeras ton Dieu comme toi-même », quelque part, c'est quelque chose aussi qui m'a interpellé. C'est que très souvent, on voit plutôt le prochain comme soi-même, mais aussi, on doit aussi s'aimer soi-même, aimer mon corps, le respecter, d'autant plus que c'est le réceptacle du Saint-Esprit. Et c'est là où se manifeste la présence de Dieu. A priori, il pourrait y avoir une sorte d'injonction contradictoire, puisque Paul nous invite à faire mourir les œuvres du corps afin de revêtir l'homme nouveau. Voilà qu'alors on nous dit qu'il faut mourir pour revêtir l'homme nouveau. C'est un peu contradictoire. Mais à y regarder de plus près, si nous sommes encore sur cette terre, c'est justement parce que nous ne sommes pas encore arrivés que nous sommes sauvés en espérance et qu'il nous faut poursuivre notre sanctification. Et que veut dire la sanctification en latin ? C'est le fait de devenir saint. C'est-à-dire que tant que je suis dans cette tente, tant que je suis vivant sur cette terre, ma mission n'est pas terminée. Et puis, il y a cette sanctification qui va se poursuivre, qui va se continuer. D'ailleurs, ça me fait penser encore à une autre phrase de Paul, quand il dit « Si mon être extérieur se détruit, mon être intérieur se renouvelle de jour en jour. » Quelque part, quelle espérance extra extraordinaire. C'est-à-dire que ne regardons pas trop à cette décrépitude physique, regardons aussi cette nouvelle vie intérieure et qui est amenée aussi à progresser, peu importe si nous déclinons, parce que ça, c'est le lot de tout le monde, évidemment. Nous sommes donc bien les fils d'Adam. Certes, nous avons tous péché dans notre chair. Ainsi, nous devons nous efforcer autant que possible de ne pas satisfaire les désirs de cette chair dans un but de sanctification, devenir saint. Et c'est seulement après notre mort que nous serons changés et que, semés corruptibles, comme dit Paul, nous ressusciterons incorruptibles, selon la promesse. Plusieurs philosophies prônent le mépris du corps et dissocient chair et esprit, comme je disais tout à l'heure. Mais quelle bonne nouvelle, nous n'avons pas à devenir un pur esprit. Par des exercices fastidieux, nous pouvons rester dans la réalité de ce corps mortel en cherchant la sanctification par le pardon, la repentance et accueillir le Saint-Esprit. Alors, parlons du Christ. Parlons du Christ parce que le rapport au corps, là, il est évident. Finalement, le Christ, c'est l'exemple de l'incarnation. L'incarnation, littéralement, ça veut dire entrer dans un corps. C'est-à-dire que on a Dieu qui est très haut dans ses sphères, qui est saint, qui est parfait, qui est intouchable, qu'on ne peut pas voir parce qu'on est pécheur, et qui va s'incarner justement dans un corps. Et là, de nouveau, on a cette notion d'incarnation. Et donc, Dieu va s'incarner dans un corps, celui du Christ, qui s'est livré pour nous. Et je vous renvoie aux paroles de la scène où le Christ dit « Ceci est mon corps, mangez et buvez, faites ceci en mémoire de moi ». Dieu descend de son palais et s'incarne dans un corps humain pour partager notre condition. Mystère de l'incarnation. Sa présence en nous est matérialisée par le pain et le vin. Encore deux éléments tirés de la vie quotidienne que nous connaissons bien. On n'est pas, encore une fois, on n'est pas dans le monde de l'esprit, dans le monde intellectuel. On est dans le concret. On parle de pain, on parle de vin. Et ça, c'est tout le monde peut comprendre ça, n'est-ce pas? Et puis donc ça devient des symboles. Ça devient des symboles, finalement, qui représentent le Christ. Et c'est ça que nous célébrons régulièrement pour vivre cette réalité de Christ en nous. Encore une fois, Dieu nous rejoint, s'incarne dans notre réalité la plus banale, la plus quotidienne. Faire cela en mémoire de lui, c'est s'identifier dans sa mort, mais aussi et surtout dans sa résurrection, dans la résurrection de son corps glorieux. Cela apparaît très clairement dans les versets suivants. 1 Corinthiens 15, 42, 44. « Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Semé infirme, il est faible, il ressuscite plein de force et glorieux. » Ce que l'on enterre, c'est un corps doué de la seule vie naturelle. Ce qui revit, c'est un corps dans lequel règne l'Esprit de Dieu. Aussi vrai qu'il existe un corps doté de la seule vie naturelle, il existe aussi un corps régi par l'Esprit. 1 Corinthiens 50, 54, 15, 50, 54. Ce que je dis, frères et sœurs, c'est que notre corps de chair et de sang ne peut accéder au royaume de Dieu. Ce qui est corruptible ne peut avoir part à l'incorruptibilité. Voici, je vais vous révéler un mystère. Nous ne passerons pas tous par la mort, mais nous serons tous transformés, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Car elle sonnera, et les morts ressusciteront, incorruptibles, et nous serons transformés. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, « La mort a été engloutie dans la victoire ». Nous sommes donc appelés à ressusciter dans notre corps et dans un corps glorieux. Combien de fois Paul dit « J'aimerais, je souhaiterais tellement ne plus être dans cette tente, car c'est plus avantageux pour moi que d'aller rejoindre mon Père plutôt que rester sur cette terre. Mais ma mission n'est pas terminée, j'ai encore des choses à faire. » Mais quelque part, pour lui, c'était clair, c'était évident. Il a eu cette révélation, évidemment. Il a été au-delà de la mort, il a vu le Christ en gloire. C'est clair que tous, on n'a pas vécu ça. Mais je veux dire, quelque part, lui se réjouit d'aller à la rencontre de son Dieu, dans un corps nouveau, dans un corps ressuscité, dans un corps glorieux. Ce n'est pas juste notre âme ou notre esprit qui survit, c'est le corps tout entier, encore une fois, incarnation, en tant que corps glorieux à l'image du Christ. On retrouve cette idée forte de l'incarnation, l'esprit incarné dans la chair. Et pour ne pas nous laisser aller dans de vagues spéculations hasardeuses, encore une fois, le Christ va nous montrer cette nouvelle réalité spirituelle en revenant lui-même et en ressuscitant dans un corps glorieux auprès de ses disciples. Ceux qui l'ont vu mourir, ceux-là vont le voir revivre, vont le voir ressusciter. Et ils pourront même toucher pour vérifier que c'est bien le Christ qui est revenu à la vie dans un nouveau corps. C'est-à-dire qu'évidemment, on ne peut pas faire n'importe quoi. Le Christ va dire, mais voilà, attention, quelque part, je suis le Christ, mais je suis différent. Je suis dans un autre corps, en quelque sorte. Et voilà, donc le Christ lui-même, premier né d'entre les morts, premier ressuscité. Et donc, c'est pour nous dire, c'est ce qui va vous arriver, chers frères et sœurs, chers chrétiens, c'est ce qui va nous arriver, résurrection des corps. Alors, c'est vrai que C'est difficile dans notre monde logique, dans notre monde cartésien, dans notre monde rationnel, dans notre monde issu des droits de l'homme, des Lumières, de Rousseau, de Voltaire, de Diderot, qui sont tous des athées invétérés, quelque part. Bon, peut-être pas Rousseau, mais enfin, bon, lui, c'était un bisounours, quelque part. Enfin, bon, c'était tout le monde est bon, tout le monde est gentil, etc., la société corrompt. Mais par contre, alors, à Diderot, il est plutôt franchement athée. Donc, on essaye, par les droits de l'homme, on tâtonne pour essayer de trouver une morale qui soit générée par les lumières de la raison. Et puis, on met Dieu de côté. Ça me fait penser d'ailleurs à ces merveilleux écrivains, Dostoïevski, qui disait que si Dieu n'existe pas, tout est permis, tout est possible, quelque part. Je pense que l'essence même de la morale, l'essence même de la loi spirituelle, elle est religieuse, elle vient aussi de la Bible, elle vient des 10 commandements, et quelque part, ce n'est pas un esprit rationnel et raisonnable qui peut tout légiférer pour dire ce qui est bien et ce qui est mal. Tiens, comme par hasard, on revient à ce qui s'est passé dans la Genèse, où c'est l'homme qui veut trouver le bien par lui-même et qui veut se faire son propre Dieu, n'est-ce pas ? Bon, mais là, je m'écarte. Abordons la deuxième utilisation du corps, cette fois-ci appliquée à l'Église, appelée le corps du Christ. On retrouve aussi ici le corps, mais cette fois dans une dimension collective. Corps personnel, et on va participer à cette extension, corps collectif qu'est l'Église. Pensez à toutes les situations de la vie professionnelle ou privée, où l'on emploie ce terme. Le corps des métiers, le corps enseignant, je connais. Les corporations, le corps social, faire corps contre les difficultés. Les corps d'armée. Alors, une définition que j'aime assez du corps d'armée, c'est de dire que c'est une unité militaire constituée de plusieurs divisions, généralement commandées par un général de corps d'armée, parfois par un général de division. Cette structure permet une grande mobilité et une capacité de concentration rapide sur un point décisif lors d'une bataille majeure. L'Église aussi, quelque part, est dans une bataille. Une bataille aussi contre le mal, une bataille contre les ténèbres. Et quelque part, on a à lutter, on est dans une bataille, on est dans une guerre spirituelle. Et l'Église est là pour ça, quelque part, pour lutter, pour faire passer ce message et pour aussi réveiller les gens, quoi. On le voit bien, cette notion de corps est utilisée dans de nombreux domaines dans le monde et montre toute l'importance du collectif pour résoudre des problèmes, remporter des batailles. Ce n'est pas l'apanage de l'apôtre Paul seulement. La théologie de Paul est ainsi incarnée dans les us et coutumes de son temps. Dans ce corps de Christ, c'est le lieu où l'on peut pratiquer cette autre partie du commandement biblique « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Ou ailleurs qu'à l'Église, on peut essayer de vivre mieux cette réalité d'aimer son prochain. Quelque part, c'est l'occasion rêvée. Disons d'essayer de nous soutenir, de nous fortifier, de nous aider, de nous entraider les uns les autres, n'est-ce pas ? En effet, il s'agit de s'aimer, il s'agit de se respecter, il s'agit aussi et surtout d'aimer son prochain. Mais voyons au travers de quelques versets ce qui fait la spécificité de l'Église corps du Christ. Alors c'est un vaste sujet. Hein. Bon, 1 Corinthiens 12, 27. « Vous êtes le corps du Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Colossiens 1, 18. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. On voit que l'Église est plus qu'une simple réunion de personnes partageant un intérêt commun. Il s'agit d'un ensemble bien coordonné, dont les membres sont unis et rattachés les uns aux autres, au Christ qui est la tête. De plus, le Saint-Esprit est constamment présent pour permettre cette bonne coordination. Ça me fait penser à une chanson de Béco qui parlait de la solitude, qui parlait de la difficulté de vie en société, où il dit « Mais et le Club Med, mais c'est pas fait pour les chiens, le Club Med, ça permet de se rencontrer. Là, on a plus qu'un club. On a plus qu'un club de sport, de foot, de tennis, ou je ne sais quoi. Quelque part, c'est l'Église, voilà, et on a un Christ pour nous aider, et on a aussi le Saint-Esprit pour nous aider les uns les autres, n'est-ce pas ? On est dans autre chose. » Romains 12, 4, 5. « Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Et chacun donc est appelé à trouver sa fonction dans ce corps. Chacun est utile et tous ont le même chef, Christ. » Pas de sujet de valorisation, pas de sujet d'orgueil quelconque, n'est-ce pas ? C'est se mettre au service du Christ, chacun à sa place quelque part. Et à partir du moment où on trouve cette place, je pense que c'est la clé, c'est une des clés, enfin c'est pour moi la clé du bonheur. Et ça, chaque fois je dois le réaliser, là je dis ça, je fais le fier en disant ça, Mais bon sang, je le réalise maintenant, ici et maintenant. Mais c'est vrai que souvent dans ma vie, je me dis, mais je cherche le bonheur autrement, quelque part. Je cherche le bonheur avec des moyens matériels, ou disons, c'est vrai qu'on est tellement, bien dans ce monde en Suisse et tout. Enfin, on a tellement de facilité matérielle. Il y a tellement de possibilités de soi-disant trouver un bonheur matériel. Mais si on cherche que ça, bah, Paul nous dit, mais vous êtes les plus malheureux des hommes si vous ne vous arrêtez qu'à cette terre-là. Il y a autre chose pour être heureux. Et donc, je pense que le vrai bonheur, quelque part, je n'ai pas honte de dire que je pense que le seul et le plus beau, la plus belle chose qu'on puisse faire, c'est vraiment servir le Christ. Et je pense que c'est ça vraiment le vrai bonheur. Et ça, je le dis, vous savez, je n'ai pas toujours réalisé ça. Je ne le réalise pas toujours. Maintenant, je le réalise maintenant. Mais je pense que c'est la plus belle chose que l'on puisse faire, en quelque sorte. Hein. C'est vraiment être au service du Christ. Je pense que c'est le plus vrai bonheur à ce niveau-là. Et donc, l'Église est une société, certes, une collectivité avec des valeurs différentes de celles du monde, où chacun est appelé à exercer une fonction spécifique à laquelle il a été appelé. C'est donc une invitation à passer de consommateur à acteur. Faire corps, c'est faire partie prenante du projet de Dieu. Il y a diversité de dons et tous contribuent au bien de l'ensemble. Diversité de membres et tous contribuent au fait que le corps puisse bouger, puisse vivre, puisse se déplacer, et toujours en pensant que la tête, ben, c'est le Christ quelque part. C'est lui la partie la plus importante. Autre caractéristique du corps du Christ, et ça on en fait souvent l'expérience, et ça c'est bien. 1 Corinthiens 12, 26. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est dans la joie, tous les membres se réjouissent avec lui. Colossiens 1, 24. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Vous voyez, donc il souffre, mais il se réjouit. Et il est en prison. Et il se réjouit des souffrances qu'il a pour vous, qui sont à l'extérieur et qui sont à l'Église, en quelque sorte. Je l'achève, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps, qui est l'Église. Et nous voyons bien ici cette exigence de la solidarité entre membres. Si un membre souffre, tous les autres membres souffrent avec lui. Si un membre se réjouit, les autres sont aussi dans la réjouissance. Et c'est vrai qu'alors moi, je dois travailler un peu sur cette question de la réjouissance. J'ai un peu de peine avec la louange, j'aimerais pouvoir être des fois plus partie prenante. Je dois vous avouer, hein, c'est quelque chose, et c'est quelque chose qui est fondamental, qui est essentiel. C'est vrai que c'est juste, la louange, oui, c'est bien, c'est important. C'est ce qui soude aussi, et c'est ce qui nous permet de nous réjouir ensemble. Le corps du Christ qui doit veiller au bien-être de chacun pour bien fonctionner. Devant les problèmes du monde, et plus particulièrement depuis le Covid, nous avons une tendance à nous isoler par peur du monde, par peur des autres. On passe au télétravail, on met ses écouteurs, on s'enferme dans sa bagnole, on est tout seul, dans les bouchons. On s'évite la plupart du temps plutôt que s'inviter. Solitude, dépression, maladie psychique nous guettent. Ça, c'est le lot des problèmes de notre pays riche en Suisse. Je ne suis pas d'accord de dire qu'en Suisse, tout va bien. En Suisse, tout va bien. Il y a des jeunes qui se suicident, il y a des jeunes qui sont en mal-être psychique, et il y en a beaucoup. Et je suis aussi bien placé pour le voir dans le monde de l'enseignement et dans le monde pédagogique. Quelque part, il y a une véritable souffrance. Et je pense que cette souffrance, elle est plus cachée. Elle est moins peut-être visible que dans certains pays en guerre où on vit des choses plutôt difficiles d'un point de vue matériel. Nous avons aussi notre lot de souffrance, et je pense que ça s'appelle la solitude, ça s'appelle la dépression, ça s'appelle la maladie psychique. Et on n'arrête pas d'entendre des émissions ces temps à la télévision, on lit ça aussi dans les journaux, que faire quand on a tel problème, etc. Il faut aller voir un psychiatre, il faut prendre des médicaments. Enfin, de plus en plus, je trouve qu'on parle de ces questions-là, on parle de la souffrance psychique au travail, etc., le burn-out et compagnie. Et quelque part, c'est peut-être aussi parce que nous ne sommes plus vraiment reliés les uns aux autres. Eh bien, nous avons cette bénédiction en tant que chrétiens d'avoir ici plus qu'un club, plus qu'une association sportive. Nous avons une église dans laquelle chacun peut exister sans jugement et essayer d'être reconnu à sa manière et exercer ses talents, partager ses peines et ses joies, n'est-ce pas ? C'est vrai, bon, ce qui me frappe aussi, c'est le de plus en plus, si vous voulez, alors bon, ça c'est, on se bat énormément aussi avec les élèves à l'école, c'est que tout le monde est toujours sur son attel, met ses écouteurs. Quand vous croisez des gens dans la rue, souvent, ils passent tout droit, c'est des vrais zombies. Quelque part, ils ne vous adressent même plus la parole, ils ne savent plus que vous existez. On est tous dans son monde, on est dans sa bulle, nom d'un chien, c'est dingue. Je veux dire, je regardais des émissions des années 70, sur YouTube. Et je me disais, mais c'est vrai qu'on avait affaire à un autre monde, quelque part. On n'avait pas de Natel, On avait trois chaînes de télévision, et donc on passait pas tout son temps soit sur des jeux vidéo, soit sur Netflix, ou je ne sais quoi, regarder quantité de séries. Et vous allez continuer votre série en plus sur votre portable avec les écouteurs. Donc finalement, vous allez vivre ce que Jean-Jacques Goldman appelle une vie par procuration, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que vous allez plus vivre vraiment, mais vous allez vivre à travers quelque chose d'autre. Vous allez vivre à travers des stars que vous allez voir dans telle série, à travers des influenceurs. Et puis vous ne vivez pas vraiment, vous n'êtes pas vraiment vous-même, on ne vous donne pas l'occasion, la possibilité, je dis vous, pas vous, mais je dis les jeunes, on ne leur donne pas cette possibilité d'être eux-mêmes, de développer aussi leurs talents, de développer leurs dons, et puis d'interagir aussi avec les autres. Allez dans les clubs de sport, faites du sport, arrêtez de passer des... Moi j'ai des fois des élèves qui arrivent avec des valises sous les yeux, mais qu'est-ce qu'ils ont fait toute la nuit ? Ils ont joué à des jeux vidéo, plus grave encore, j'ai eu pour la première fois dans toute ma carrière, pour la première fois, j'ai un élève qui est venu, qui était drogué. Donc vous avez peut-être entendu parler de ce qui se passe au Paki, il y a de plus en plus de dealers. Lui, c'est normalement un très bon élève, très discret et tout. Je veux dire, il était complètement désinhibé, je ne l'ai pas reconnu cet élève. Il avait les yeux complètement bouffis, il racontait n'importe quoi. Et puis après, il s'est avéré qu'il avait consommé du cannabis. Et en ce moment, je sais qu'au Paki, puisque c'est là où j'enseigne, c'est-à-dire à Sécheron, c'est un peu dans ces quartiers-là, il y a beaucoup de deals, il y a même des ados qui commencent à dealer, enfin des jeunes, un petit peu à l'inspiration de ce qui se passe dans les rues de Marseille, et c'est vrai que c'est un peu une inspiration dans des cités, on va dire, en France, des banlieues en quelque sorte. Et puis vous avez de plus en plus de jeunes, et puis parce que ça rapporte beaucoup d'argent, on peut se faire vraiment un fric incroyable, et puis, de l'argent facile. Et puis là, il y a un problème en ce moment, et là, quelque part, j'en ai eu la preuve avec ce jeune qui est venu complètement péter dans mon cours. Quoi. C'était vraiment, vraiment triste. Donc, c'est ça. Alors, j'en arrive déjà à ma conclusion. Et j'aimerais citer, comme toujours, la Bible est tellement riche qu'on pourrait citer à l'infini la Bible et même pas faire aucun message, quelque part. Elle se suffit à elle-même. Et pour conclure, dans Éphésiens 1, 22-23, Dieu a tout mis sous ses pieds. Il a donné Christ pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Dieu a donné à Christ l'autorité suprême sur toute chose. Il l'a établi comme chef de l'Église. L'Église étant décrite comme le corps de Christ, ce qui souligne l'unité et l'interdépendance des croyants. La plénitude de Christ qui remplit tout en tous indique que Christ est présent et actif dans chaque membre de l'Église, apportant sa plénitude et son accomplissement à l'ensemble du corps. Vous savez, je la pète en vous parlant de ça, en vous récitant ça. Ça vient de ChatGPT, ça. Juste ça. Mais vous savez, non, j'ai demandé, mais cette phrase-là, je ne la comprends pas très très bien. Est-ce que tu pourrais juste me demander, m'expliquer un peu la signification de ce verset ? Quasiment instantanément, il m'a pondu ça. Alors, j'ai un peu corrigé, bien sûr. Enfin, c'est toujours ce qu'on dit. Parce que, non, il ne faut pas tout prendre à la lettre et tout. Mais bon, vous savez que, voilà. Mais c'est assez bien dit. Par contre, ça, c'est de moi la suite. Donc, il est important de prendre soin de son corps, temple du Saint-Esprit, mais aussi, par extension, prendre soin de l'Église, corps du Christ. D'accord ? Alors, j'ai assez parlé. On a maintenant des questions, trois petites questions. Vous l'imaginez bien, donc, qui vont concerner le corps du Christ, l'Église, et puis cette notion de corps que j'ai un peu développée. Est-ce qu'on pourrait passer ces questions pour un échange ? Donc, il y a trois questions. On forme des petits groupes, on n'est pas très nombreux, 2-3 personnes, 3-4 personnes, je ne sais pas. Voilà. Alors, première question, comment je vis l'Église ? C'est quoi pour moi l'Église ? Bon, ça, évidemment, je pense que vous savez largement plus que moi-même. Qu'est-ce que j'attends de l'Église ? Deuxième question, quels sont les dons que je pense avoir reçus et que je mets ou pourrais mettre au service de l'Église ? Je dirais que par rapport à ça, je suis heureux d'être dans une église où je trouve qu'on reconnaît les talents des personnes et puis je trouve qu'il y a une certaine motivation, c'est-à-dire qu'on motive les personnes à participer dans tel groupe, de faire telle chose. Je ne sais pas, c'est pas le cas partout. Et là, je trouve que c'est vraiment quelque part une très bonne chose dans cette église. Je trouve qu'on pratique cet encouragement les uns les autres. Et on a besoin de ça. Parce qu'on peut passer de longues années, ou très souvent, à passer à côté de qui on est, de quels sont ses vrais talents. Je pense qu'on a aussi besoin des autres pour savoir un peu ce qu'on vaut, ce qu'on est. Et puis on a tous de la valeur, et puis on est tous capables de plein de choses différentes les uns des autres. Ça me fait penser d'ailleurs, pour le dernier message, pour le dernier article que j'ai fait pour Versoix Région, j'étais très content que Jean-Marc, qui est très doué en peinture et en dessin, m'envoie un tableau qu'il a fait, donc le lac de Brienz. Je trouvais que ça allait très très bien avec le thème que j'ai développé. Et puis, ça m'a fait sourire, parce que j'ai trouvé ça génial, parce que moi, j'ai toujours été un nul absolu, je ne suis pas du tout un visuel. Hein. C'est-à-dire que j'ai toujours été très nul de tout ce qui est dessin. Alors, c'est peut-être aussi des complexes que j'ai pu développer, j'aurais peut-être pu aller contre ce complexe, et puis dépasser ça, je n'ai jamais dépassé tellement. Et puis vraiment, quelque part, je suis pas bon en dessin, quoi. Voilà, je suis daltonien. Donc, et quand on est petit, quand on nous dit qu'on n'arrive pas à voir les couleurs, des fois, on ne le prend pas très bien, quoi. Donc, voilà, peut-être que j'ai fait un blocage, je ne sais pas. Mais je veux dire, quelque part, voilà, on est complémentaires. C'est-à-dire que c'était un gros soulagement que Jean-Marc me propose ce tableau. En plus, c'est sympa, il y a une touche personnelle, on ne va pas l'épuiser dans la base de données d'Internet. Et puis, on fait quelque chose de légal, parce que souvent, on met des images, et puis en termes de droits d'auteur, on ne respecte pas trop, voilà. N'est-ce pas ? Mais voilà, donc ça, c'est vrai que c'est sympa de pouvoir partager. Et puis, chacun a une diversité de dons, et puis les mettre au service les uns les autres, toujours pour la gloire de la tête qu'est le Christ. Troisième question, comment je considère mon corps ? Comment j'en prends soin, physiquement, spirituellement ? Est-ce que je le néglige ? Est-ce que c'est important ? Pas important pour moi ? Non, parce qu'il y a d'autres choses qui sont plus... Enfin, je ne sais pas, quel est votre point de vue là-dessus ? Est-il important pour moi ? Suis-je conscient qu'il représente le temple de l'esprit ? Ça, je pense que vous êtes tous conscients ici. Bien sûr. Voilà, ça vous va comme ça ? Si on fait un petit échange en groupe ?